Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Vous ne rêvez pas, nous faisons un épisode sur Transformers, le film de Michael Bay. À l'origine, il s'agit d'une licence de jouets imaginée par l'entreprise japonaise Takara Tomy et la société américaine Hasbro. La franchise a connu plusieurs vies. La première date des années 80 avec une gamme de jouets et surtout un dessin animé culte qui sera diffusé sur Canal+. La seconde vie a commencé en 2007 avec la sortie du premier film Transformers. Depuis, on compte plus de 7 longs métrages racontant la guerre des Autobots et des Decepticons, sur Terre mais pas que. On va lancer la bande-annonce du premier long métrage pour se mettre dans l'ambiance et ensuite on va commencer à discuter avec notre invité bande-annonce.
Quelle que soit sa nature, l'objet tombé du ciel s'est écrasé juste là derrière.
J'ai entendu plusieurs explosions comme des banques soniques.
À 9h précise, notre base opérationnelle Soxcent au Qatar a été attaquée. Le seul indice que nous ayons est un son.
À pilote du MH3, coupez vos moteurs immédiatement. Faites sortir votre équipage ou nous serons forcés de vous tuer.
Mon Dieu.
Voilà, vous avez compris le principe et puis je pense que certains peut-être ont des souvenirs de ce premier Transformers. On a aujourd'hui un invité qui n'est jamais venu sur le podcast, Robert Ospion. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes acteur, scénariste et essayiste. Vous avez réhabilité Michael Bay dans un essai passionnant intitulé Michael Bay, la fin de l'innocence aux éditions Aardvark. Pour la petite histoire, on devait faire ensemble un podcast sur Rebel Moon partie 2, mais c'était tellement mauvais que je vous ai proposé de faire un podcast sur un film Michael Bay. Voilà, c'était pour un peu raconter les coulisses de notre rencontre et pourquoi on a un podcast Transformers aujourd'hui. D'ailleurs, Michael Bay est-il supérieur à Zack Snyder, Robert Ospion?
Loin de moi l'idée de vouloir imposer des avis sentencieux et définitifs comme ça. Pour ma part, oui, je préfère largement le cinéma de Michael Bay. Enfin, je pense que ça va un peu de soi, sinon j'aurais pas écrit un bouquin sur le bonhomme. Mais les deux sont très proches. Les deux étaient même camarades de classe à l'école, je crois que ça s'appelle l'Art Center de Pasadena, qui sont là où il a fait ses études après la fac. Donc, et on sent une parenté entre les deux. Donc effectivement, la comparaison n'est pas complètement dénuée de sens. Là où je trouve que Zack Snyder travaille de quelque chose de plus pictural, enfin, on dirait vraiment que Zack Snyder il s'est trouvé avec son adaptation de 300, où il a commencé à faire de l'adaptation de la case à l'écran, même si après il s'en est un peu démarqué. Il est resté un peu là-dedans et je pense que ça l'a desservi. Puis après, je pense aussi qu'il a été ruiné par son expérience avec Warner Bros. Et que du coup, il s'est un petit peu perdu dans ses excès et il est en panne d'inspiration. Là où Michael Bay, je pense, a davantage de ressources, il est émergé dans une autre époque qui n'était pas une ère encore marquée par forcément à courir après les IP, et donc il a pu davantage s'imposer, alors que là on pouvait croire que c'était juste un poulain de l'écurie Bruckheimer interchangeable avec tous les Simon West et Dominique Sena de ce monde. Je pense que sa longévité est la preuve qu'en fait justement il n'était pas comme Dominique Sena, il n'était pas comme Simon West, c'était un réalisateur avec une vraie personnalité, avec une vraie vision du monde, pour reprendre les termes qui ont servi à définir la politique des auteurs par les cahiers du cinéma à l'époque. J'estime que Snyder est également un auteur parce qu'il a des thématiques et une esthétique récurrente, mais celle de Michael Bay me paraît plus intéressante.
Comment vous expliquez une certaine forme de mépris du cinéma de Michael Bay qu'on a ressenti pendant plusieurs années au niveau des cinéphiles et évidemment au niveau des critiques. C'est en train de changer en ce moment un petit peu. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé car The Rock reste globalement apprécié par les gens.
The Rock reste globalement apprécié par les gens parce que je pense que c'est encore celui qui reste très carré. Moi, ça reste mon préféré. Je trouve que c'est vraiment un film qui est à la fois opératique, mais une horlogerie en termes de construction, en termes de montage, en termes de mise en scène. On n'était pas encore dans la démesure absolue dans laquelle il allait s'adonner par la suite. Mais il y avait déjà aux États-Unis des critiques qui le reprenaient, parce que Bad Boys, son premier long, était un peu une espèce de rejeton des années 80 qui est sorti en 1995. The Rock était considéré comme juste un film d'action, certes efficace, mais bon, qui n'était pas celui qui s'est fait le plus remarquer à l'été 96, où il y avait Independence Day, Mission Impossible, Twister, c'était la grande époque des films catastrophes. Et donc, il s'est adonné aux films catastrophes avec Armageddon, et je pense que là, ça a été un peu le film du divorce avec beaucoup de gens, parce que Armageddon, je pense, est une plus pure expression de Michael Bay, où vraiment tous les excès sont autorisés. Et en même temps, c'est aussi un film qui montre la grande dichotomie qu'il y a dans son cinéma, qui est une espèce d'équilibre improbable entre un premier degré too much auquel il croit vraiment quand il fait ses séquences, la séquence, le montage sur le discours du président, il est à 100% derrière, aussi gros, grandiloquent, aussi outrancier que ça puisse être. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de second degré, il y a beaucoup de comédie dans ses films. Justement, lui, quand il parle d'Armageddon, il en parle comme d'une comédie sur des monsieur tout le monde qui vont sauver le monde et tout. Et justement, il y a quelque chose d'un peu qui tient de la dérision. C'est quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il fait, ce qui ne l'empêche pas de temps en temps d'y croire et d'abandonner son cynisme. Pour ma part, justement, je trouve plus intéressant les films où il délaisse son cynisme. Et malheureusement, il a été souvent obligé, de par les revers de sa carrière, à retomber un peu dans ses pires travers.
Alors, on a cité déjà Bad Boys, on a cité The Rock, Armageddon, il y a eu Bad Boys 2, il y a eu The Island. Où est-ce qu'il en est, Michael Bay, quand il démarre la saga Transformers? On est en 2007, on vient de finir, si on resitue un petit peu la grande séquence des trois grandes trilogies se termine. Star Wars, Matrix, Le Seigneur des Anneaux sont terminés. Harry Potter continue et enfin aussi de se terminer. Et va arriver Transformers qui va s'imposer comme une des grandes nouvelles franchises. Presque au même moment arrive, ou un petit peu après va arriver Avengers qui va aussi relancer un autre cycle. Où est-ce qu'il en est lui et pourquoi il se lance dans Transformers ?
En fait, ce qui se passe, c'est que justement, comme je disais, c'est quelqu'un qui a émergé dans les années 90, qui fonctionnait encore sur ce qu'on appelle les spec scripts, c'est-à-dire les scénarios spéculatifs, où des scénaristes pouvaient écrire un scénario qui n'avait pas été commandé par un studio sur une idée originale. Donc on fonctionnait vachement sur le high concept. Et c'est pour ça que Bad Boys, The Rock, Armageddon, même Pearl Harbor, certes, inspiré de faits réels, ce sont tous des original IP, ce qu'on appelle aujourd'hui des original IP. C'est quelqu'un qui a émergé avec ce type de cinéma-là. Sa seule suite à l'époque, c'était Bad Boys 2, et qui était un peu une manière de clore le cycle Bruckheimer, et qui était clairement aussi un film en réaction à l'accueil défavorable de Pearl Harbor, qui était censé être le film qui allait le réhabiliter aux yeux de, non seulement pas uniquement du public, qui a été toujours son principal intérêt, mais de la profession et des critiques, et malheureusement ça a été le résultat que l'on sait, peu probant. Et je pense qu'après ça, il y avait l'envie de faire une espèce de putain d'exutoire qui a été Bad Boys 2 et qui est vraiment une espèce de gigantesque doigt d'honneur à tout, à la bienséance, à la moralité, etc. Et donc après ça, il a besoin de se ressourcer et il change de producteur et il est recruté par Steven Spielberg. Et Steven Spielberg a su canaliser vraiment le regard de Michael Bay pour l'imagerie publicitaire, et Michael Bay a mis son cinéma, sa vision du monde au service d'un propos plus intéressant avec The Island, donc un film de SF qui brasse des thèmes autrement plus, profonds, entre guillemets, de par rapport au film qu'il a pu jusqu'à maintenant attaquer, en tout cas au premier niveau de lecture. Et The Island est son plus gros échec. The Island est un gigantesque bide qui ne fait que 20 millions, 28 millions, quelque chose comme ça, sur le territoire américain. Et je pense que là, il y a une grosse remise en question de la part de Michael Bay, qui va pour la première fois faire une adaptation d'une licence préexistante et qui va un petit peu donc retomber du coup dans le cynisme. The Island était super premier degré et Transformers va être un film où on affiche ouvertement le côté un peu je m'en foutiste du scénario, où c'est genre après un gigantesque speech de Optimus, le héros Sam qui demande mais comment est-ce qu'on va les retrouver, et qu'il y a une espèce de petit moment de silence juste avant qu'un gros plan et une réponse d'Optimus soit eBay. Enfin, c'est on s'en fout un peu, en fait. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est en train de faire un film adapté d'une licence de jouets avec des voitures qui se transforment en robots qui vont se foutre sur la gueule. Ce qui ne l'empêche pas, je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui, à mes yeux, rend le premier Transformers, bien qu'il soit pas forcément le meilleur en termes d'action, celui qui fonctionne encore le plus en tant que vrai film. Il y a encore l'envie de faire un film amblinien. C'est vraiment la rencontre entre l'univers amblinien d'un Spielberg avec un jeune garçon qui va avoir sa première voiture et l'univers de Michael Bay avec ce militarisme que lui équivaut non pas à une espèce de fétichisme de la figure du soldat comme on pourrait bêtement le croire ou à du patriotisme, mais qui était une manière pour lui de rendre les choses plus réalistes et plus dangereuses. Et donc c'est un peu la rencontre de ces deux univers qui fait que voilà, il va réussir à y trouver son compte tout en ayant la démarche de faire, comme en témoignait un de ses fidèles collaborateurs à l'époque, la démarche de vouloir faire le film le plus pop possible pour se remettre de l'échec de The Island. Donc c'est un peu là qu'on trouve Michael Bay à cette époque-là.
C'est intéressant, je vais remonter un petit peu sur Pearl Harbor, c'est vrai que je l'ai oublié et c'est vrai que c'est un... Enfin, moi je considère ce film vraiment très mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est... est-ce que finalement ce qui n'a pas plu à la critique ou même aux professionnels, c'est le côté peut-être très lourd de Pearl Harbor? Quand on compare, il y a quelques années avant Pearl Harbor arrive Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, c'est un immense film, je pense, en termes techniques, clairement, et qui est beaucoup, même si c'est un film qui respire le côté pro-américain, on le ressent beaucoup moins que dans Pearl Harbor, où il y a des séquences qui sont même assez cultes. Moi, je me rappelle finalement du matelot noir américain qui prend sa grosse mitrailleuse lourde pour dégommer un avion zéro. Et en fait, on voit ce film et peut-être cette débauche d'argent et d'effets spéciaux, et on se dit que finalement, Tora est un bien meilleur film, ce qui paraît quand même étrange.
En fait, aussi sincère qu'il a été, parce que c'est un film qui continue d'explorer un peu les thématiques qui sont chères au cinéaste, vraiment sur la figure du sacrifice, et notamment du soldat qui se sacrifie, du jeune garçon qui devient un héros, qui sont des thématiques relativement classiques en fiction, mais qui sont vraiment des choses très récurrentes dans le cinéma de Michael Bay. Et le problème, c'est que oui, ça a pris un petit peu, avec cette imagerie surannée, cette imagerie d'épinal qu'il a pu utiliser, des atours limite de films de propagande, parce que l'idée, c'était effectivement pas de faire... Enfin, l'idée, c'était un peu inavoué, mais de faire un peu le soldat Ryan meets Titanic. Et malheureusement, ça ne s'appuie que sur des clichés, c'est-à-dire que l'authenticité et la vie qui peut se dégager du film de James Cameron, en plus du propos sur la lutte des classes, est évidemment complètement absent ici. On est vraiment retourné à des valeurs beaucoup plus vieilles, où vraiment il n'y a même pas le minimum de remise en question qu'il peut y avoir sur le sens de la guerre, enfin le sens de la mission. Tout le soldat Ryan, c'est ça, c'est est-ce que ça a du sens d'aller sacrifier potentiellement 8 gars pour en sauver qu'un seul? Qu'est-ce qu'on défend? Quel est le but de tout ça? C'est pas du tout ce que raconte Pearl Harbor, qui est beaucoup plus straight sur ce qu'il veut raconter, sur, comme je disais, donc le soldat et qui va ériger la notion de sacrifice et même du sacrifice de toute une nation pour que la nation puisse se réveiller. C'est un film qui ne se termine pas sur l'attaque de Pearl Harbor, mais se termine sur le raid de Doolittle, qui est un raid en vrai de rien du tout, mais qui du coup transforme un peu le film en une histoire de victoire et de ce qui devait arriver aux États-Unis pour qu'ils se réveillent. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas totalement matché à ce moment-là avec ce que le public attendait. On était... Pourtant, juste avant enfin, peut-être s'il était sorti juste avant, après le 11 septembre, à l'époque où le grand public américain était peut-être un peu plus avide de spectacles patriotiques, il aurait davantage fonctionné. Mais là, c'était pas vraiment ce qui était attendu. Et je pense qu'en plus, c'est un film qui souffre aussi d'une certaine dissonance cognitive, à savoir que la séquence de l'attaque de Pearl Harbor est extraordinaire d'un point de vue de film d'action, mais est-ce que ça devrait être aussi réjouissant comme spectacle, vraiment dans le sens de spectaculaire, pour quelque chose qui est au fond une tragédie?
Vous avez évoqué James Cameron, donc on a fait plusieurs podcasts sur James Cameron. Est-ce que finalement Michael Bay, c'est pas un peu le disciple de James Cameron, mais aussi de Steven Spielberg?
Je pense que c'est parmi ses plus grosses influences, Spielberg, Cameron et Tony Scott surtout. Ce sont vraiment les trois cinéastes dont on peut le plus retrouver l'héritage en fait dans le cinéma de Michael Bay. Il y a vraiment quelque chose. Armageddon, moi, me fait souvent penser à Abyss. C'est vraiment parce que Abyss aussi, au final, c'est des fourreurs pétroliers qui se retrouvent dans une situation extraordinaire. On retrouve deux acteurs d'Abyss dans The Rock avec Ed Harris et Michael Biehn. Non, je pense qu'il y a même une petite le pommeau du levier de vitesse dans Armageddon est une tête de Terminator. Enfin, après, au-delà de ces petites références un peu superficielles, je pense qu'il y a quelque chose de ce cinéma-là, du cinéma de Spielberg, du cinéma de Cameron et du cinéma de Tony Scott pour tout ce qui est donc de cette imagerie plus léchée, plus clipesque, publicitaire, etc., qui se retrouve chez Michael Bay. Mais je pense que Scott, il y a plus à regarder du côté de Scott et du côté de cette école-là, en fait, de cinéma, pour voir d'où vient véritablement l'œil de Michael Bay.
Je vais vous faire écouter un court extrait de la chaîne YouTube Epic Rap Battle of History. Le principe est de confronter des personnalités dans un rap. Michael Bay apparaît dans une battle mettant en scène Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino et Stanley Kubrick. On regarde ça maintenant.
That's enough. I've heard enough crap from all of you. When I come down there and show you what a real star can do, I swear blow with the telephoto. No Bruckheimer, I work solo. If there's one thing I've learned, bitch, this game is about motherfucking money. I make that dollar, y'all. Motherfucking money. Even make Mark Wahlberg make some motherfucking money. I set a shop and got a few drops of that got milk money. Rose to the rock, now I got that socks made of silk money. I ain't got that guilt money, I don't give a fuck. I take my checks to the bank and I sign.
Voilà, c'est un extrait assez, assez savoureux.
Bon, très, si vous, très juste.
Si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous avez compris que l'argent revient souvent dans, dans les punchlines de Michael Bay. Bay est souvent présenté comme très attiré par l'argent et comme un espèce de mâle alpha avec ses cheveux mi-longs blonds. Pourquoi il a cette réputation, Robert ?
Je pense que c'est une image qu'il cultive, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire que finalement, l'imagerie qu'il vend, l'imagerie publicitaire qui émane de ses films, continue dans son mode de vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Les voitures que conduit ses personnages, souvent, c'est exactement les voitures qu'il a. C'est même littéralement, parfois, les voitures, ces voitures qu'il prête pour ses tournages. On le voit régulièrement, et c'est un invité régulier de la Playboy Mansion de Hefner. On le voit régulièrement avec des femmes... aux physiques similaires à celles que l'on peut voir dans ses films, pour ne pas dire à celles qu'on peut voir dans ses pubs pour Victoria's Secret. Je pense que c'est une imagerie vraiment qu'il cultive, parce que les témoignages de gens qui le connaissent, qui l'ont côtoyé, parlent de, enfin Megan Fox elle-même parle de quelqu'un qui en dehors peut être assez gauche, assez même timide. Lui-même avoue que avant d'être un frat boy à l'époque où il était à l'université, c'était un nerd. Hein, faut savoir. Donc, vraiment le personnage de Shia LaBeouf dans Transformers, c'est Michael Bay. Hein. C'était vraiment ce petit nerd-là. C'est pour ça que la figure du garçon au sens large, hein, donc pareil, je qualifie même Nicolas Cage dans The Rock, c'est cette figure-là. C'est un peu le prototype du jeune garçon innocent qui va soudainement devenir un héros au travers de l'action. Ça, c'est Michael Bay. C'est Michael Bay qui est un enfant qui a été adopté, qui n'a jamais connu son père biologique, et ça aussi c'est quelque chose qui se retrouve dans ses films. Donc tout ça, enfin là je fais vraiment de la psychologie comptoir évidemment, mais tout ça je pense participe à comprendre pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui peut vouloir véhiculer au travers de ses œuvres, tout comme au travers de son imagerie, de son image publique. Bah ouais, l'image de quelqu'un d'un mâle alpha, d'un putain de winner, de quelqu'un voilà qui exulte la masculinité dans tous ses atours, un peu c'est ouais des signes extérieurs de maleness un peu quoi.
On va revenir sur Transformers, hein, le premier film rapporte 700 millions de dollars, c'est ce qu'a fait actuellement Dune 2. La franchise aurait rapporté au total presque 5 milliards de dollars. Comment vous expliquez le succès global de Transformers? Personnellement, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre d'où venait cette hype. Je la comprends totalement pour Marvel et Enco, mais j'ai l'impression que Transformers est plutôt un succès américain plus que européen, ou je me trompe totalement?
Si, probablement. Après, à l'international, les films ont quand même suffisamment marché. Le 4 a même bénéficié, comme beaucoup de blockbusters à cette époque-là, de coproduction, enfin de financement même chinois. Et donc, y a vraiment, les films s'exportent dans une certaine mesure. Après, je pense que ça répondait à ce que le public pouvait attendre. Déjà, il ne faut pas négliger la force de frappe du marketing qui en a vraiment, vraiment beaucoup fait à l'époque, parce que du coup, celui qui a le plus cartonné, si je ne m'abuse, c'est le deuxième, qui est souvent considéré comme le moins bon, ou en tout cas l'un des moins bons. Après, le succès d'un film, des fois, témoigne davantage de l'appréciation du précédent. Et je pense que le précédent était une vraie surprise dans un paysage où, en 2007, les blockbusters de cette année-là, enfin, c'est... Die Hard 4, enfin, c'est pas forcément des propositions originales. Je dis pas que Transformers est une proposition originale. L'intrigue, c'est globalement une espèce de remake de Terminator 2, pour revenir à Cameron encore une fois. Mais pour le coup, le spectacle qui était proposé, ce spectacle juste, ouais, des bagnoles qui se transforment en robots, surtout vu par l'œil de Michael Bay, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et y avait ce rendez-vous, du coup, tous les deux ans, plus ou moins, il a réussi à garder les rythmes, de retrouver ce spectacle qui n'était pas quelque chose qu'on retrouvait dans les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait déjà la vague de films de super-héros qui avait commencé, et ça, c'était une alternative. C'était pas de la contre-programmation, parce que ça reste du giga blockbuster qui tâche, avec ses effets pyrotechniques, avec tout ce qu'on veut, mais avec cette proposition qui était proposition formelle, et surtout... Ça, c'est quelque chose à pas négliger, je pense. Et je pense que même le spectateur, des fois, n'est pas dupe, même s'il peut célébrer le plus fat des Marvel. Des fois, on reconnaît aussi l'œil de quelqu'un. C'est-à-dire que Michael Bay, comme d'autres cinéastes, comme Christopher Nolan, comme maintenant Jordan Peele, est sa propre marque. C'est-à-dire qu'au départ, je pense que les gens viennent voir un film de Michael Bay. Et malheureusement, je pense que la saga Transformers a un peu abîmé la marque Michael Bay, à savoir que maintenant, pendant plusieurs années, malheureusement, Michael Bay a été associé à Transformers et que du coup, les gens ont du mal maintenant à venir voir un film de Michael Bay vu qu'il n'y a plus les Transformers.
Je vais m'adresser au scénariste. Comment est-ce que vous analysez l'écriture du premier Transformers qui ressemble finalement à un espèce de premier contact compliqué, mettant en scène des robots géants infiltrés contre l'armée américaine? Je vais vraiment... Je résume ça très brièvement, mais en revoyant le film, moi j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu premier contact finalement entre deux mondes et deux humanités.
C'est, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un film qui est très calibré, qui emprunte à beaucoup de genres différents, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la même démarche de film catastrophe, en tout cas au niveau du crescendo de la première heure, effectivement, comme vous le dites, de premier contact, ça rappelle un peu la première heure de Independence Day, ça rappelle la première heure d'Armageddon, parce que c'est le monde, notre monde, qui va découvrir cette réalité autre, dissimulée, parce qu'en plus, donc, on apprend que l'histoire des Transformers est liée à l'histoire humaine, et ça va être approfondi, reboot à chaque film, à chaque épisode, mais voilà, ça emprunte au film catastrophe. C'est pour ça qu'on a l'implication, on a un film assez choral, c'est-à-dire qu'on a des personnages militaires, on a un personnage donc de jeunes auquel on peut s'identifier, on a le gouvernement qui est impliqué, on a des informaticiens, on a un peu tout ce panel représentatif, donc on emprunte ces stéréotypes et ces archétypes du film catastrophe. Et après, en même temps, donc il y a le film en blind au milieu de tout ça, donc d'un gamin qui va obtenir une voiture, qui développe un rapport avec un être fantastique muet. C'est dans ces scènes-là que Bay arrive à infuser un peu un sens du merveilleux, là aussi sans doute hérité de Spielberg, et où par exemple voilà toute l'espèce de l'imagerie iconique, ce que j'appelle la fabrique à icônes qu'il arrivait à faire dans Armageddon, il la met au service, par exemple dans la séquence de l'arrivée des Autobots, c'est vraiment un putain de clip merveilleux, juste avec des trucs improbables, où un robot sort d'une piscine, on est en contre-plongée du point de vue de la petite gamine qui le prend pour la petite souris, et il y a la musique derrière de Steve Jablonski, c'est des chœurs, enfin, c'est totalement interdit en fait, mais vraiment je trouve, en tout cas pour peu qu'on accroche à cette imagerie, parce que Michael Bay c'est vraiment quelqu'un qu'on aime ou qu'on déteste pour exactement les mêmes raisons, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose d'iconique qui se passe là et qui moi me subjugue en fait, vraiment.
Je vais lire justement un premier extrait de votre essai, page 71, La technologie transformatrice. Inévitablement, avec la saga Transformers, Bay allait expérimenter plus que jamais avec la technologie numérique. Néanmoins, le cinéaste insiste pour tourner le maximum d'effets, entre guillemets, en dur, comme on dit. Ainsi, le moindre impact sur l'environnement causé par l'action est réel. Une voiture qui se retourne, des gravats qui volent, un bus qu'on éventre et tout effet pyrotechnique ont lieu sur le plateau avant que l'on intègre les robots géants en images de synthèse les plus photoréalistes possibles, exigence de Bay. Par conséquent, ils ont un réel poids. On vous citait Michael Bay. « Je suis le type de réalisateur qui n'aime pas les effets spéciaux », disait-il à propos d'Armageddon. Toutefois, dans un premier temps, le réalisateur s'en donne à cœur joie sur ses films, dont la particularité a même pu être bénéfique à sa mise en scène. Peut-être un mot sur les fameuses... scène d'action de Transformers du premier film. Quel regard vous portez sur ces scènes qui mixent course-poursuite, combat de robots, avions de chasse, voitures qui se transforment, camions ou tanks qui se transforment? Comment vous analysez cette façon de finalement filmer l'action, qui est peut-être ce qu'il fait de mieux finalement dans son cinéma, Michael Bay?
Ce qui est très intéressant dans Transformers. Il arrive à recycler certaines de ses idées de ses précédents films et il met vraiment il y a des scènes qui adoptent un point de vue un peu plus empirique comme il pouvait avoir dans les scènes de dogfight de Pearl Harbor. Il y a des scènes où il est vraiment au cœur de l'action. Il y a des scènes où il va vraiment, enfin, c'est comment dire. Déjà, effectivement, le sens de la volonté de garder une certaine réalité, je ne parle pas de réalisme, hein, mais vraiment le fait donc de vouloir de tourner maximum sur le plateau, enfin sur le plateau, donc dans des décors naturels, le moment où Bone Crusher donc, va éventrer un bus sur l'autoroute, il n'y a que Bone Crusher qui est faux. Le bus est réellement là, il est réellement éventré, il y a vraiment une explosion en plein milieu d'une autoroute, et on rajoute juste le robot derrière. Ça ajoute un poids qui manque terriblement aujourd'hui où genre ce film a été fait sans image de synthèse est devenu un argument de vente en plus à moitié faux pour garantir aux gens qui vont avoir une expérience avec un peu plus de poids et de gravitas. Michael Bay, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'écrit pas ses propres films mais qu'il écrit ses propres scènes d'action, et on le ressent, c'est-à-dire que il a une manière de mettre en scène l'action qui est la sienne, où il privilégie davantage une expérience sensorielle à une, on va dire, géographie ou scénographie parfaitement lisible. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, ce que décrit dans le bouquin, c'est quand on est par exemple dans une course-poursuite, on n'est pas à la place des personnes qui conduisent, c'est comme si on était accroché sur le capot et qu'on essayait de rester en vie pendant que la course-poursuite est en train de se dérouler. Et on est donc davantage dans quelque chose qui tient du ressenti plutôt que de la lisibilité. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens n'accrochent pas à son cinéma. Et après, ce qui est posé avec Transformers et qui est intéressant, c'est qu'il utilise tout de même la technologie numérique pour aller à la recherche du plan inédit. Donc par exemple, ça va être un robot qui va se transformer pendant qu'il est en train de rouler sur l'autoroute. La caméra va passer sous son corps, donc en train de se transformer. Avec cette imagerie, en plus, il y a un autre essayiste, Joe D'Amico, qui compare ça au cubisme, enfin une branche du cubisme qui s'appelle le futurisme. Et effectivement, il y a quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui tient du spectacle qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça, littéralement, on n'a jamais vu. Même dans le dessin animé original, les transformations ne ressemblaient pas à ça. Là, la volonté, là aussi, de vouloir à tout prix, il avait imposé aux infographistes que durant les transformations, enfin que en mode robot ou en mode voiture, ce soit absolument exactement le même nombre de pièces qu'il puisse y avoir, ce qui implique d'avoir donc du coup un physique qui est différent du physique très carré que pouvaient avoir les dessins animés, et donc d'avoir une transformation beaucoup plus élaborée, beaucoup plus même laborieuse on pourrait dire, et qui a quelque chose de très cinégénique. Mais je pense que c'est ça qui intéresse le plus Michael Bay, c'est d'avoir ce truc cinégénique, et en plus d'avoir son dynamisme habituel.
Je vais relire un extrait aussi de votre essai, cela concerne le chapitre Remodeler le réel, c'est page 47. En premier lieu, dans les films de la licence, alors même qu'elle s'inscrit dans la science-fiction la plus déconnectée de la réalité, Bay s'appuie grandement sur des décors réels, mais à dessein. Il les choisit non seulement pour leur caractère esthétique et iconique, le barrage Hoover, les pyramides de Gizeh, Stonehenge, mais surtout historiques, leur imaginant des origines uchroniques. Ainsi, pour chacune de ces constructions de la main de l'homme, il existe une motivation secrète à leur existence, cacher la présence de robots extraterrestres, intimement lié à notre passé. Avant même de révéler physiquement ce qui est dissimulé derrière le bâtiment connu, comme le corps cryogénisé de Megatron ou bien une machine capable d'aspirer l'énergie du soleil, la simple altération par le récit de l'identité du monument lui confère une dimension fantastique. Petite question, moi, sur le côté peut-être plus science-fictif, finalement, de Transformers. Ça reste assez léger dans ce premier numéro, en tout cas dans ce premier film. On sait qu'il y a des robots, on sait qu'il y a une guerre entre des robots, et on sait, mais finalement, on n'en sait pas plus, et ce sera la suite de la franchise qui va développer des choses assez rigolotes, notamment le Moyen-Âge avec Transformers, qui, moi, je trouve, en termes d'imaginaire, reste pour moi ce qui m'a le plus marqué, le côté un peu fantasy science-fiction avec un dragon robotique et des chevaliers.
Je pense que justement, au départ, il s'évitait de trop partir en vrille et donc il restait quand même relativement terre à terre. L'ancrage, en fait, dans le réel et aussi ce qui lui importe. Hein. C'est-à-dire, c'est comme on l'a déjà évoqué, donc ça se traduit à la fois dans la manière de mettre en scène l'action, dans la manière de tourner les scènes d'action, dans l'utilisation des décors et dans l'utilisation du numérique. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'à partir du deuxième, on va avoir des scènes qui sont intégralement en CGI. Je pense notamment à la discussion entre Megatron et Starscream, ou entre Megatron et le Fallen, où vraiment on est globalement dans du film d'animation. Mais sinon, ça va être le réel qui lui importe. Donc il reste encore timide en termes de SF, et effectivement ça va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des films, parce que je pense que la SF n'intéresse pas foncièrement Michael Bay, en fait. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'au final ça reste pas forcément, si on enlève la saga intégralement Transformers, il y a que The Island, et on va dire dans une moindre mesure Armageddon, c'est pas vraiment de la, enfin s'il y a quelque chose qui est l'exact opposé de la hard SF, c'est ça. Enfin, là on est dans de la soft SF, enfin c'est liquide en fait comme SF, c'est vraiment genre, mais parce que justement déjà c'est pas quelqu'un qui est intéressé par le réel. On lui disait à propos d'Armageddon, d'un point de vue de la science physique, ça marche pas, c'est pas correct et tout machin, et lui il s'en fout. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire.
Il est à l'inverse de Christopher Nolan, par exemple.
Exactement.
Pour qui la science, on le voit avec Interstellar, voilà, qui est le film, un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années. On voit que c'est à l'inverse d'un Christopher Nolan qui, lui, va essayer de se battre pour rendre ça un peu crédible.
Non, c'est ça, c'est vraiment que justifier le moment présent, que justifie ce que je veux raconter, qu'est-ce qu'il va avoir. Voilà, c'est le réel ne lui importe pas. C'est pour ça qu'il se réapproprie le réel. Et des fois, ça se témoigne juste. Il n'y a même pas besoin d'avoir des films de SF, hein, ça se témoigne juste dans des décors. Je veux dire, personne n'habite là où habitent ces personnages, en fait. Un petit chimiste du FBI comme Nicolas Cage n'habite pas un putain de loft de San Francisco avec des baies vitrées pas possibles, etc. Enfin, mais ça a plus de gueule. Le QG improvisé du FBI dans The Rock ne peut pas être une espèce de parking avec des statues d'aigle pas possible. Mais soudainement, ça convoque une autre image, ça convoque soudainement un autre chose. Et c'est ça, en fait. Il préfère vendre son histoire au travers d'une imagerie outrancière plutôt que d'avoir recours à du réel. Et donc du coup, quand il s'adonne à la SF, même si comme dans le passage que vous avez cité, il va réutiliser des décors réels pour leur inventer un passif, on reste quand même dans ce réel. C'est aussi cette identification là qui permet que ce soit fantastique, qu'il y ait quelque chose de transcendé. Si on part sur quelque chose qui est immédiatement fictionnel, du coup je pense que ça lui parle moins. Même The Island, qui est plus ouvertement un vrai film de SF où il est question de clonage, il reste délibérément dans un futur assez proche, et on est justement dans le rapport à une réalité qui est juste là, à savoir si on pouvait se faire cloner, est-ce qu'on ferait ça, est-ce qu'on sacrifierait, les questions éthiques qui sont posées. Voilà, il se permet d'avoir des petites motos qui volent et un métro aérien et tout ça et tout, mais sinon on reste quand même dans quelque chose de plus humain et terre à terre.
En quoi la franchise Transformers était innovante pour l'époque, et pensez-vous qu'elle a influencé d'autres licences ?
Je ne sais pas si à proprement parler elle a pu être innovante, en tout cas clairement pas d'un point de vue de l'écriture ou même de ce qui a pu être proposé en termes d'idées, de SF ou d'idées narratives. C'est vraiment une espèce de recyclage et de gloubli-boulga de plein de choses. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir comment est-ce que Michael Bay revisite un peu des codes et des genres, que ce soit le film Catastrophe ou carrément le film de Kaiju avec par exemple Devastator dans le deuxième film qui s'en prend aux pyramides. Mais après, clairement, son influence se voit sur le cinéma d'action par la suite. C'est-à-dire que justement, quand on regarde le climax du premier Avengers, qui est sorti un an après Transformers 3. Alors je pense pas qu'il est copié sur Transformers 3, je pense qu'il est plus ou moins copié sur Transformers 1, qui est déjà une baston en plein milieu de la ville, mais la parenté est indéniable. Et je pense que c'est quelque chose qui va se voir aussi après dans plein de films. Le G.I. Joe de Stephen Sommers a des plans typiquement béiens avec des ralentis qui sont quasi calqués sur ceux du premier Transformers. Qu'on le veuille ou non, il a un style qui est copié par beaucoup et jamais. Enfin, Battleship, par exemple, exactement. La vidéo, il y a une vidéo que je conseille à tout le monde de voir de la série Every Frame a Painting sur YouTube, faite par Tony Zhu, où lui-même n'est pas fan de Michael Bay, mais il analyse le style de Michael Bay et il montre bien d'un point de vue purement technique, en décrivant exactement qu'est-ce qui cloche dans la volonté de reproduire les mouvements de caméra, de l'utilisation des focales qui n'est pas la bonne, etc. Dans la volonté de copier de Peter Berg, de copier le cinéma de Michael Bay dans Battleship, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Mais l'influence est là, elle est indéniable. Alors là, j'ai cité beaucoup de trucs qui sont pour le coup des films Hasbro, G.I. Joe et Battleship, mais voilà, ça s'étend donc à des films, donc, que ce soit au Marvel ou à d'autres films d'action qu'il y a pu avoir par la suite.
C'est Sam ? Oui, Twiki. Et ils t'ont pas laissé en rade à cause de moi, hein ? C'est sûr ? Dis, tu sais quoi ? J'ai qu'à te monter si tu veux. Je veux dire, t'as qu'à monter si tu veux. Dans ma voiture, je te ramène. Installe-toi.
Merci.
Alors ?
Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là ?
Si tu veux te cacher, vas-y, je vais pas me vexer.
Oh non, 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 je dis pas là, avec toi, je parlais en général de la situation.
Oh.
Bah ouais, le même plan dans lequel je me retrouve tout le temps, tout ça parce que je sors qu'avec des mecs ultra virils taillés en V, avec des tas d'abdos et d'énormes biceps.
Biceps. Tu vois, en fait, j'ai un paquet de gadgets là-dedans. Genre, j'ai une lumière au-dessus, là. Là, tu vois, il y a une boule, et du coup, ça se reflète et ça fait ambiance. Et ouais.
Et en fait, t'es nouveau ? Au lycée, t'es nouveau de cette année ?
Oh, non, non. Depuis le primaire, je suis à l'école avec toi.
C'est vrai ?
Ouais.
Non.
Si, ça fait un bail.
Et on est ensemble ? Enfin, je veux dire, à certains cours ?
Ouais.
Ah oui,
ouais,
okay.
En histoire, langue, dessin, maths, sciences.
Sam.
Un petit mot sur quand même le duo d'acteurs et de comédiens qui sont un peu les visages de cette franchise, Shia LaBeouf et Megan Fox. Comment vous analysez, vous, ces deux héros qui finalement... alors moi je pense que Shia LaBeouf, c'est très compliqué d'arriver à s'en rappeler. Voilà, y a, c'est terrible, je pense, un comédien où en fait finalement, mais on l'avait déjà vu un peu dans Indiana Jones numéro 4, où je pense que c'est difficile d'imprimer vis-à-vis du grand public, mais c'est à analyser. Comment vous analysez ce duo qui est finalement change un petit peu, parce que dans les films de Bay, on a souvent deux héros masculins, ou en tout cas, on a souvent des hommes entre eux. The Island, il y a un duo homme et femme, c'est le premier où il y a un peu ce truc-là. Comment vous analysez, vous, ce duo Shia LaBeouf et Megan Fox?
Moi, à l'inverse, je trouve que Shia LaBeouf a quelque chose d'assez attachant et charismatique, justement, dans son énergie, dans son humour, dans le premier film. Et c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure de la saga, où il devient de plus en plus antipathique. Après, l'acteur, lui, a eu les problèmes que l'on sait. Mais sinon, il a quelque chose d'un peu rafraîchissant, parce que justement, c'est un peu le premier vrai personnage jeune que Michael Bay utilise, et donc qui correspond assez à son prototype de protagoniste qu'il affectionne particulièrement. Et après, le fait qu'il ait un tandem avec Megan Fox ne fonctionne pas exactement, c'est pas la même dynamique que ces autres duos, où effectivement on est plus dans une dynamique de dominant et de dominé, que ce soit dans les flics de Bad Boys ou dans The Rock entre Nicolas Cage. Enfin, ça tenait davantage du buddy movie, donc de l'héritage du buddy movie, et surtout, ouais, voilà, dans l'idée que y en a un qui domine l'autre, donc ils arrêtent pas de se foutre sur la gueule, de se charrier, et il y en a un qui doit au final se substituer à l'autre pour sortir de ce rapport de dominant. Là, c'est pas du tout ce que ça raconte, parce que justement il y a un rapport amoureux, et déjà dans The Island, où c'était un tandem mixte, c'était pas ça. C'est-à-dire que le dominant, au final, devenait davantage à la fois son clone, enfin son original, si je puis dire, et son créateur. Et là, dans Transformers, on n'est plus du tout dans le même arc. On est toujours dans l'idée du sacrifice, avec il fait de la devise familiale des Witwicky, donc du personnage principal, No Sacrifice, No Victory, qui est une espèce de variation sur No Pain, No Gain, et qui est vraiment la manière d'encapsuler la thématique des films de Michael Bay, à savoir qu'on ne peut pas arriver à quoi que ce soit sans faire des sacrifices et de faire des efforts. Et donc c'est davantage ça qu'il raconte au travers de son personnage, et au final, le tandem, c'est presque limite plus Sam et Optimus, ou Sam et Bumblebee. Enfin, c'est un peu Sam qui se construit par rapport aux différents personnages qu'il va avoir, donc pas vraiment par rapport à ses parents, mais donc Optimus qui l'appelle donc au sacrifice, et un personnage féminin qui va au travers duquel il va inévitablement du coup come of age, parce que c'est ce côté un petit movie qui a dans le film. Quant à Megan Fox, il y avait une analyse très intéressante de la vidéaste Lindsay Ellis, qui a fait toute une série de vidéos sur Transformers, où elle dit que c'est un peu le seul personnage, enfin c'est un des personnages aussi qui a un arc un peu dans le film, parce que on la présente, elle a un vrai passé avec son père qui a dû faire de la tôle, et elle qui a pas voulu le vendre, c'est pour ça qu'elle a un casier, et justement elle parle aussi de la notion de sacrifice, mais pendant qu'elle est en train de parler de tout ça et qu'elle est en train de montrer qu'elle est pas la bimbo que l'on peut croire, parce qu'elle a réussi à réparer la voiture de Sam, la caméra à ce moment-là la filme comme une espèce d'objet de désir, etc. Parce qu'on est dans le point de vue de Sam. Donc là, je ne vais pas parler de dissonance cognitive comme le fait Lindsay Ellis, comme si Michael Bay ne comprenait pas ce qu'il était en train de filmer. Il comprend ce qu'il est en train de filmer, c'est juste qu'à ce moment-là, il adopte le point de vue de Sam, qui entre guillemets n'en a rien à foutre de ce qu'elle est en train de lui raconter. Il est juste en train de mater une meuf et tout. Et après, oui, on ne va pas se mentir, les personnages féminins dans le cinéma de Michael Bay sont rarement là pour être autre chose que des objets de désir, que ou éventuellement des objets de pas de victime, mais c'est que la femme au foyer auprès de laquelle il va falloir revenir, que ce soit pour Marcus dans Bad Boys, que ce soit pour Stanley Goodspeed dans The Rock, que ce soit Liv Tyler dans Armageddon, etc., etc.
Es-tu Samuel James Witwicky, descendant d'Archibald Witwicky?
Ouais.
Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron.
Mais vous pouvez nous appeler Autobots, c'est plus court.
Autobots?
Ça roule, les danseuses?
Mon lieutenant. Appellation Jazz.
Sympa ici, je me pose 2 secondes.
C'est quoi ça? D'où il sort ce langage?
Nous avons appris les langues des terriens en surfant sur le web. Mon expert en armement, Ironhide. Alors, tu tentes ta chance ou pas? Tout doux, Ironhide.
Je plaisante. Je voulais lui faire voir mes gros canons.
Notre médecin-major, Ratchet.
Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle.
Tu connais déjà ton ange gardien, Bumblebee.
Bumblebee? C'est ça? T'es mon ange gardien alors, hein?
Ces processeurs vocaux ont été endommagés au cours de la bataille. J'essaie de le remettre en état.
Pourquoi êtes-vous ici?
Nous sommes à la recherche du Allspark. Nous devons le retrouver avant Megatron.
Et est-ce que finalement, le meilleur personnage de Transformers, le premier du nom, c'est pas Optimus, puisque quand même, Michael Bay a réussi à imprimer avec son visuel ce robot qui est rentré dans la pop culture. Alors évidemment, ils ont vendu un maximum de jouets et ça faisait aussi partie du projet, je pense. C'est pour ça que Hasbro est aussi un peu derrière tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que finalement, le robot Optimus est resté un peu dans les esprits avec cette esthétique si particulière et avec, comme vous l'avez très bien expliqué, cette espèce de façon de se déployer qui rend quelque chose d'assez effrayant en plus.
Bah, il y a un plan qui revient souvent dans les films de Michael Bay, qui est un peu son plan signature, qui est une espèce de, qui est un travelling circulaire en contre-plongée, en longue focale autour d'un personnage qui est en train de se relever. Et ce plan-là, qui était donc réservé aux deux flics dans Bad Boys ou à Nicolas Cage dans The Rock et à Dwayne Johnson dans Pain and Gain, est utilisé pour Optimus dans Transformers, et par deux fois. C'est-à-dire que alors qu'il est en train de raconter l'histoire d'un garçon qui devient un héros, ce n'est pas lui qu'il décide de mettre en scène vraiment comme un héros. C'est-à-dire que son plan héroïsant clé, vraiment son plan héroïsant fétiche, il l'utilise pour Optimus. Il y a une fétichisation à ce moment-là de Michael Bay, oui, de cette figure. Et je pense que c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, on peut remonter, si on veut, on peut remonter jusqu'à Leni Riefenstahl pour explorer en quoi est-ce que la mise en scène du corps permet de conférer une aura supplémentaire.
Leni Riefenstahl, pour ceux qui ne connaissent pas, est une réalisatrice allemande très connue puisqu'elle a, elle a réalisé Le Triomphe de la Volonté, qui est un film de propagande nazie, où elle a filmé les corps comme on n'a jamais filmé.
Et les dieux du stade.
Et les dieux du stade, voilà. Et donc ça reste en fait des espèces de chefs-d'œuvre de la propagande nazie, puisque ce sont des films qui ont énormément marqué les esprits, notamment avec cette façon de présenter les corps.
Voilà. Exactement. Et le corps a toujours été très important pour Michael Bay, c'est-à-dire que justement, que ce soit par des formations professionnelles, parce qu'au départ il a commencé avec des pubs, donc quand il devait mettre en scène des sportifs ou quand il devait mettre en scène des sous-vêtements féminins, le corps était forcément son premier outil de travail. Et comme on est après, comme il bascule après dans le cinéma d'action, inévitablement le corps, est-ce que le corps va subir, parce que la figure christique et la figure de martyr, comme je parlais du sacrifice, est au cœur du cinéma de Michael Bay, le corps va devenir vraiment quelque chose d'important. Et ce qui est intéressant avec les Transformers, c'est qu'il y a quelque chose qui va se perdre au fur et à mesure des films, et au fur et à mesure qu'il se désintéresse un peu de cette saga et qu'il semble obligé d'y revenir pour pouvoir financer d'autres projets, ce corps va petit à petit se désincarner. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va le rendre plus organique, avec des effets spéciaux toujours plus convaincants, et les robots ne vont plus juste pisser pour la blague, mais ils vont genre saigner, baver, et même être mis à mal. C'est-à-dire que si ces films étaient faits avec des êtres humains, ce serait même plus classé R, ce serait classé X aux États-Unis, parce qu'il y a une espèce de violence qui émane de ces films et qui, à mon avis, est aussi un peu la traduction en fait d'un cinéaste qui commence à se perdre dans un cinéma d'effets spéciaux qui, à la base, n'est pas celui qu'il affectionne, comme dans l'extrait que vous citiez tout à l'heure. Et donc voilà. Et donc le corps est mis à mal, et c'est marrant, enfin marrant, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est intéressant de voir que ça s'incarne au travers d'une saga où ce sont des corps non humains, des robots. Et je pense qu'au final, c'est ça, c'est un peu la peur lui-même d'être devenu ce robot. Je pense que, alors qu'au départ, il s'identifiait à Sam, après, il va commencer à s'identifier effectivement à Optimus, dans le quatrième, qui récupère un peu le rôle du soldat sacrifié qu'il y a souvent dans ses films. Et après, il va carrément, je pense, même s'identifier au personnage du majordome d'Anthony Hopkins dans le dernier Transformers, qui est juste une espèce de malade mental qui veut tuer tout le monde et qui en a marre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, et c'est pas pour rien que c'était le dernier film, c'était vraiment le film du ras-le-bol pour Michael Bay.
En parallèle, Michael Bay va faire des films d'action. Il va faire No Pain No Gain, 13 Hours, Six Underground et surtout Ambulance, qui est son dernier film, qui a eu du succès, entre guillemets, succès critique. C'est, on a l'impression de revivre un film d'action des années dignes des années 90. Et on, là même, on mettra sur la page du podcast la séquence où Michael Bay est venu sur Combini dans la fameuse chaîne Vidéo Club, où il vient parler du cinéma. Et en fait, on sent que depuis Ambulance, il revient à la mode. C'est assez fascinant de voir que Ambulance, qui est plutôt un bon film, qui est très très bien réalisé, a eu du succès critique. Et on a l'impression que Michael Bay, finalement, en sortant de tout ça, redevient quelqu'un de fréquentable.
J'espère. En tout cas, je pense qu'effectivement, comme vous l'évoquiez au début, il y a eu un début de réhabilitation critique, que ce soit en France ou même outre-Atlantique, avec No Pain No Gain, parce que je pense que après, c'est un film qu'il voulait faire depuis 10 ans, et donc il a accepté de faire Transformers 3 pour pouvoir le faire. Et c'est un peu, je pense que ça a rappelé aux gens que, ah bah oui, en fait, Michael Bay, il peut avoir envie de raconter quelque chose, il peut y avoir du propos dans les films de Michael Bay. Ça reste du propos asséné à la Michael Bay, donc vraiment avec le style le plus grossier et le plus outrancier qu'il puisse y avoir, mais qui était très intéressant parce que c'était un peu le film qui remettait en question justement toute cette imagerie un peu macho qu'il a pu cultiver depuis des années, et de montrer, comme je disais au début, que c'est quelqu'un qui est très conscient de l'imagerie qu'il véhicule. Et donc du coup d'attaquer un peu le culte des apparences tout ça au travers de ce film qui est plus une comédie à la Frère Cohen qu'un film d'action, je pense que c'est vraiment permis de se ressourcer, et ça a permis aux critiques de voir les choses un peu différemment. Malheureusement, ça s'est planté, donc il a dû refaire un Transformers derrière. Après, il fait 13 Hours, qui là aussi est un projet plus sérieux, sans doute son premier film dénué complètement de cynisme depuis The Island, ça vérite son envie de faire son Black Hawk Down. Là aussi, c'est un film qui n'a pas foncièrement cartonné. C'est ça, les gens ne venaient plus voir Michael Bay que pour des Transformers. Donc après, il fait Transformers 5, il arrête, il va chez Netflix, pour faire Six Underground, qui est un film d'action, premier film sans Spielberg, sans Bruckheimer, où on peut dire que c'est vraiment Michael Bay laissé à son compte, parce que Netflix a l'habitude de laisser un peu les cinéastes faire ce qu'ils veulent. Les scènes d'action sont extraordinaires, le film est plus intéressant, je pense, que ce que beaucoup de gens veulent croire au niveau de ce qu'il raconte justement du rapport à la fiction, encore une fois, qui est le grand paradoxe du cinéma de Michael Bay. Mais voilà, il y avait une envie de se ressourcer, et Ambulant, c'est un peu genre voilà, maintenant on va revenir à un film où il y a quasiment pas de CGI, littéralement il le disait lui-même, il y a genre trois plans avec des CGI, il les trouve lui-même foirés dans le film. C'est un film qui exorcise aussi un peu son envie. Son premier film, il avait envie que ce soit Speed. À l'époque, il s'était porté volontaire pour faire le film, ça aurait dû être son premier, et enfin il n'avait pas réussi à le décrocher à l'époque. Et donc c'est un peu son Speed, son film fait pendant le Covid, où, alors qu'il préparait un plus gros projet, et là il a décidé de faire un truc à moindre coût, et donc je pense que voilà, qui était un peu un retour aux sources, et qui en plus bénéficiait d'un meilleur scénario, qui en plus était aussi sans doute son film le plus woke, ce qui était assez inattendu. Et du coup, ouais, ça, là aussi, ça a permis à nouveau à la critique de l'accueillir un peu plus favorablement. Malheureusement, encore une fois, c'est un film qui n'a pas vraiment marché. Donc moi, je m'interroge vraiment sur le futur de Michael Bay. Il n'a pas encore vraiment de vrais projets annoncés. Enfin, il y a deux projets dont on sait qu'il les prépare, mais il n'y en a aucun qui est encore en pré-production. Donc il est assez difficile de voir s'il va être possible pour lui de continuer à œuvrer, parce que Ambulance, certes, c'est un remake, mais c'est un remake d'un film danois que personne n'a vu, donc on ne peut même pas vraiment parler de brand name recognition, donc vraiment d'utiliser une IP. Et Six Underground était un film original, mais c'est un film Netflix, donc là aussi c'est assez flou au niveau des chiffres, et on sait que ça aurait dû être une franchise, et la franchise n'a jamais eu lieu, donc il faut croire qu'en fait ça n'a pas si bien marché. Est-ce que le public est encore prêt à se déplacer pour un film de Michael Bay, aussi bon soit-il, Ambulance en étant la preuve?
Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se remette dans une franchise peut-être grand public? En tout cas, j'ai commencé le podcast en faisant un parallèle, en vous demandant une comparaison entre Zack Snyder et Michael Bay. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Michael Bay et George Miller? Parce que dans le Mad Max Fury Road et bientôt le Mad Max Furiosa, en termes de course-poursuite, chez George Miller, et c'est un film incroyable, ce Mad Max Fury Road, on vibre, et il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. En tout cas, il y a des images retouchées numériquement, mais il n'y a pas beaucoup. Toutes les cascades sont quasiment vraies. Il y a eu un mort sur le tournage et ça respire la véritable cascade. Et je fais le parallèle avec Ambulance, qui respire aussi le vrai tournage et la vraie cascade. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette espèce de fougue qu'on a dans le cinéma de Miller, surtout sur Fury Road, et avec Michael Bay, qui lui aussi affectionne finalement ces séquences-là de course ou de course-poursuite avec des explosions?
Tout à fait. Après, ils sont aux antipodes au niveau de ce qu'ils racontent de manière générale ou de leur style. Mais après, voilà. Enfin, George Miller, ça s'explique parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient d'une autre génération. Mais après, en fait, en vrai, Michael Bay aussi. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Chris McQuarrie, c'est heureusement qu'il reste encore des gens qui tiennent à faire, quand ils font des scènes d'action, des scènes en dur. Aidé soit par des cascadeurs, soit par Tom Cruise qui fait ses propres cascades, et avec des câbles effacés un peu numériquement ou deux, trois environnements remplacés, mais qui essaye au maximum de pouvoir avoir ce dur, de revenir à ce cinéma de spectacle où on pouvait sentir le danger, où on pouvait sentir la tôle froissée. Ouais, heureusement qu'en fait qu'il reste encore des gens comme ça qui sont d'une autre génération, là où les cinéastes qui débarquent aujourd'hui, bah oui, sont malheureusement plus enclin à suivre le modèle. Écoute, tout est gris pour que les différentes boîtes d'effets spéciaux qui fonctionnent dessus n'aient pas besoin d'uniformiser, enfin de trop galérer pour uniformiser le truc. Enfin, c'est tous les échos qu'on peut avoir des différentes boîtes d'effets spéciaux qui sont surmenées. Je pense qu'elles préféraient toutes faire quelque chose de mille fois plus beau, de mille fois mieux. Et elles sont toutes. En ce moment, il y a une vidéo qui dit c'est quoi ? C'est une série de trois vidéos que c'est No CGI is really invisible CGI, où le mec explique qu'en fait un spécialiste d'effets spéciaux préférait que le maximum d'effets soit fait en dur, en fait. Donc je sais pas, il y a une paresse ou une facilité qui a chez beaucoup de, et après je sais même pas si c'est vraiment des cinéastes, mais ou si c'est des impositions qui sont faites par les studios sur des cinéastes qui n'ont pas le final cut. Michael Bay a eu la chance de cartonner très tôt et d'avoir le final cut, donc entre guillemets de faire un peu ce qu'il veut, et quand je dis ça, c'est sur les films qu'on le laisse faire, évidemment, parce que du coup on le laisse pas non plus faire les films qu'il veut. Mais Voilà, heureusement qu'il reste des fous. Heureusement qu'il reste des gens qui se mettent un peu en danger pour nos yeux, quoi.
Ce sera le mot de la fin. Avant de se quitter, Robert Ospion, est-ce qu'il est prévu que votre essai ressorte un jour, puisque j'ai réussi à le trouver à la Cinémathèque française, il en reste encore un pour préparer cette émission. Est-ce qu'on peut espérer que les éditions Aardvark peut-être republient ce livre?
Je pense pas, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, il a pas été épuisé. En fait, si des gens souhaitent l'acquérir, il est toujours disponible dans certaines librairies spécialisées, donc comme la Cinémathèque. Il est commandable dans n'importe quelle librairie. Donc, si vous avez une librairie de prédilection, une librairie quartier dans laquelle vous aimez aller, vous pouvez aller leur demander, ils le commanderont et ils le recevront et vous pourrez l'acheter directement là-bas. Ou alors, bien évidemment, vous pouvez le commander directement sur le site des éditions Aardvark, qui a aussi toute une série de livres excellents sur d'autres cinéastes ou d'autres mouvements, d'autres courants. Comme un livre de Fabien Moreau sur le cinéma japonais, sur les kaiju.
Qui est venu deux fois sur le podcast, qu'on connaît bien.
Pas besoin de le présenter. Ou même un film sur les films d'exploitation australiens. Enfin, il y a vraiment de tout dans cette maison d'édition. Et donc voilà, vous pouvez toujours le commander là-bas. Sinon, il ne sera pas. Enfin, il n'a pas été. Les autres endroits n'ont pas été provisionner davantage avec ce livre-là. Mais j'encourage tout le monde à aller le découvrir, parce que je pense que c'est un cinéaste qui mérite qu'on s'attarde sur lui, plus en tout cas que ce que ne le laisse entendre la critique ou certains publics.
Tout à fait. On recommande évidemment la lecture de votre livre, Michael Bay, La fin de l'innocence, qui est extrêmement intéressant et qui permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de Michael Bay. Et en plus, je pense qu'on pourra faire d'autres épisodes avec Michael Bay, que ce soit sur Armageddon ou encore sur The Island, que vous appréciez bien. J'ai cru comprendre en vous lisant que vous appréciez bien The Island. On va finir le podcast en musique. MC Solar, qu'on adore, évidemment, c'est générationnel, a fait une chanson pour le dernier Transformers, et on n'a pas pu résister à vous passer ce morceau. On va mettre le... Ça y est, on lance le morceau en fond. On vous remercie, Robert Ospion, d'être venu sur C'est plus que de la SF, et on espère vous retrouver une prochaine fois dans le podcast.
Absolument, merci de m'avoir invité.
Encore merci à vous.
Autant des premiers laptops et des Autobots, rendez-vous au burger ou au magasin Coop, sur l'écran plein. Madonna et RuPaul, le fleuron de l'époque était le starter. Primo, gourou, Michael Schumacher, avant-gardiste, autant d'Optimus. Je vendais des bootlegs de Biggie en plus. Certains m'appelaient le joueur de Tetris, archéopuriste, super futuriste. Moi qui croyais que tout était figé, une Porsche vient de se transformer. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Je roule vers la tour avec Bumblebee. On m'a dit plus tard ce soir c'est de la folie. Y'a des sports de 12 styles. Paix à Daniel, il te frappe en diagonale parce qu'il fait du padel. Zinedine Zidane l'attaque en pyromane, a capturé l'étoile et redoré la flamme. Y'avait dans la tête des fans de la Schiffer. Au kebab d'à côté c'était pas qu'on burger. Je te parle du temps, du wesh la famille, du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y'a la wifi. Face à la Joconde on fait des selfies. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Et comme Michael, I remember the time, the wimpy old kitsch, quick et free time. Je n'ai pas vu Vegas depuis la mort de Tupac. Si tu comptes en année, c'est 21 plus 4. Je voulais être Mirage, un peu puis beaucoup. Des coups de boule et de coups, il en a mis beaucoup. Encore un effort et je deviendrai plus fort que Jet Okocha dans l'équipe de Francfort. Il faut pas que j'ai lutte que dans la banlieue sud. Beaucoup lâcher les études pour aller vers le stud. It's over, n'appelez pas le sauveur. Pour la terre promise, on a le Range Rover. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons.